Mémoire vive,
présentée par Christelle Le Polothèque
et préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Bonjour, nous recevons aujourd'hui Emmanuelle Pollack, historienne, spécialiste du marché de l'art sous l'occupation. Bonjour Emmanuelle Pollack, vous travaillez auprès de l'INHA et vous avez par ailleurs été la commissaire d'une exposition présentée dernièrement à la Galerie Franck Elbaz à Paris, des galeries d'art sous l'occupation, qui a remporté un très grand succès. Aujourd'hui, nous vous recevons pour parler du dernier numéro de la revue Archives Juives, qui est une revue de l'Alliance Israélite Universelle, dirigée par Catherine Nicot. Ce numéro est intitulé « Juifs et marché de l'art en contexte de guerre au XXe siècle » et c'est un numéro qui paraît avec le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. D'abord, peut-être est-ce que vous pouvez nous présenter donc ce numéro et nous expliquer quel a été votre désir et pourquoi il est si important aujourd'hui de revenir sur le pillage des galeristes juifs et les transactions en tout genre qui se sont faites en profitant des difficultés donc rencontrées par les juifs.
Tout d'abord, bonjour. Merci beaucoup de me recevoir. Oui, c'est important de dire que ce numéro d'archives juives est consacré aux juifs et au marché de l'art parisien pendant la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale. Alors, sur la Seconde Guerre mondiale, qui est plus particulièrement mon sujet d'étude, eh bien, nous sommes intéressés à la géographie des galeries d'art représentées à Paris, et à la fois sur la rive droite et également sur la rive gauche, et nous avons essayé de les observer, de les passer à la loupe à travers le prisme des lois de Vichy et des ordonnances allemandes. C'est ainsi que, en prenant un corpus d'environ 50 galeries qui vendaient de l'art moderne à Paris, eh bien, nous en avons à peu près 25 d'entre ces galeries qui seront arianisées et ou spoliées. Parmi celles-ci, deux galeries véritablement importantes, la galerie de Paul Rosenberg, dont on a entendu beaucoup parler, puisque Anne Sinclair, la petite fille de Paul Rosenberg, a écrit un livre qui s'intitule 21 rue La Boétie, et qu'actuellement au musée Mayol se tient une exposition qui reprend ce titre, 21 rue La Boétie, où on présente l'histoire de la galerie. Ça, c'est terriblement intéressant. Et en miroir, je me suis intéressée à une galerie un peu plus modeste, mais tout aussi importante en histoire de l'art, qui est la Galerie Zach. Et la Galerie Zach, nous avons la possibilité d'avoir cet article dans Archives Juives. Le titre de l'article est le suivant, « Du nouveau sur la Galerie Zach, de sa création à sa spoliation ». Et c'est un confrère américain, Marc Mazurowski, qui nous a confié cet article.
Alors pourquoi cette galerie a retenu votre attention en particulier parmi donc ces 25 galeries qui ont été spoliées, arianisées?
Oui, absolument. Alors la galerie Zach, en quelques mots, parce que mon confrère américain le dit beaucoup mieux que moi, l'écrit beaucoup mieux que moi, mais c'est tout d'abord le peintre Jean Zach, qui décède en 1926, il est juif polonais, et sa femme Edwige Zach, en 1927, va ouvrir une petite galerie au sein de leur appartement, au 16 rue de l'Abbaye, en plein cœur de Saint-Germain des Prés, et au cœur de cet appartement où il y a un petit duplex, eh bien, elle va apposer les œuvres de son mari et des œuvres beaucoup plus importantes, notamment un portrait de Gabriel de Renoir. Elle y maintient une activité formidablement vivante, par exemple en présentant dès 1928 des œuvres de Torres Garcia, un latino-américain, et elle est dans les premières à Paris à le recevoir. Donc cette activité va finalement subir les assauts de plein fouet des lois de Vichy. Très vite, la galerie va être arianisée. Edwige Zach et son fils Jean sont conduits à se réfugier à Nice, qui est un espace et un abri d'ouverture et de lieu de refuge pour les familles juives, avant que ça ne devienne une souricière. Elle a la possibilité d'avoir une vingtaine de tableaux qu'elle confiera dans une banque. Or, très vite, Edwige Zach est arrêtée. Elle est déportée, envoyée à Drancy, déportée au camp d'Auschwitz où elle est immédiatement gazée. Son fils Jean sera gazé également quelque temps après à Monowitz. Et en 1945, Vladimir Reinkis, un cousin de la famille, ignore absolument tout de cette histoire terrible. Et il va tenter, pensant que Edwige Zach rentrera et souhaitant l'aider à recouvrer son patrimoine artistique, eh bien, il va s'adresser à Albert Henrot, président de la commission de récupération artistique, en lui demandant des nouvelles des 20 tableaux. 3 tableaux seront restitués, un Renoir, puis 2 autres œuvres. Or, sur les 20 œuvres confiées à ce coffre-fort, eh bien, 17 sont toujours en déshérence.
Et comment ça se fait? Cette banque, elle était où? Elle était à Paris?
Cette banque était à Nice. Et c'est un individu, Krosk, qu'on avait repéré au musée du Jeu de Paume, quand j'avais publié avec Philippe Dagen les carnets de Rosevalent, qui est un membre de l'ERR, cet état-major dédié au pillage, qui dans la banque, ouvert le coffre par effraction, récupéré les œuvres et qui les a emmenées en Allemagne, pense-t-on. Est-ce que c'est passé par le musée de Jeux de Paume? C'est très certainement possible. Toujours est-il que, alors que nous n'avons pas travaillé pour le moment, 75 ans après, vous voyez, c'est encore vraiment d'actualité, et nous n'avons toujours pas récupéré toutes les œuvres et elles n'ont pas été repérées, donc pas restituées.
Alors c'est ça qui est aussi très intéressant notamment dans l'exposition que vous avez présentée à la galerie Franck Elbaz, c'est-à-dire que on connaît maintenant de mieux en mieux, vous avez évoqué notamment le musée de Jeux de Paume et Rosevalent, on connaît de mieux en mieux la manière dont les musées d'État nationaux ont été spoliés pendant la guerre. Par contre, en ce qui concerne les galeries privées, c'est peut-être encore un peu moins connu. Comment, par exemple, ce Krosk a-t-il pu savoir que ces œuvres étaient là? Notamment, est-ce qu'il y a eu du repérage de la part de certaines personnes? Est-ce qu'il y a eu des complicités? On en sait un peu plus là-dessus?
Oui, alors je vais juste revenir, si vous me le permettez, sur les collections publiques dont vous parliez, qui n'ont peu ou pas subi de pillage. Il y a très, très, très peu d'œuvres dans les collections publiques qui ont été transférées en Allemagne. Il faut savoir que ces collections publiques sont inaliénables et qu'elles ne peuvent pas, même en temps de guerre, même si l'Allemagne a très souvent, l'Allemagne nazie a très souvent, à coup de boutoir, souhaité tenter de récupérer quelques œuvres, très peu d'œuvres. On peut les compter sur les doigts de la main. Je pense à la Belle Allemande d'un tilleul du XVIe siècle de Gregor Erhardt, dont Hermann Göring est tombé amoureux et donc il a véritablement voulu avoir cette œuvre, donc elle a été transférée. Mais sinon, les collections publiques...
Ce sont que des œuvres privées. D'accord.
Les collections publiques ont très, très, très peu souffert. En revanche, les œuvres des patrimoines français appartenant aux familles juives ont, elles, été véritablement subies, un pillage à nul autre pareil, véritablement sur une très, très vaste échelle. Et parmi celles-ci, c'est un repérage, comme vous le dites tout à fait justement, qui a été opéré dès les premières heures de l'occupation sur les plus grandes galeries d'art, et notamment la galerie 21 rue La Boétie de Paul Rosenberg. On sait que les nazis parviennent le 14 juin 1940 à Paris. Dès juillet 1940, le 21 rue La Poésie est l'objet d'une perquisition. Nous en avons la preuve. Ce que nous ne savons pas exactement, c'est ce qu'est l'état de la perquisition et ce qu'ils ont pu emmener à ce moment-là. Par contre, ce que nous savons tout à fait, c'est l'ampleur du pillage du coffre de Libourne. Là encore, nous sommes dans un coffre-fort. Paul Rosenberg, avant de quitter la France le 17 juin 1940 précipitamment, avait pris soin de mettre à l'abri, pensait-il, 162 tableaux dans un coffre-fort de la banque de Libourne, près de Bordeaux, où il avait loué dès l'automne 1939 une grande résidence qui s'appelait le Castel Floirac, dans lequel il voulait mettre les siens à l'abri, et une partie de sa collection. Sur ces 162 tableaux, nous avons un inventaire très précis dressé par le directeur de l'École des Beaux-Arts de Bordeaux. Et nous avons des indications formidables, puisque nous avons le titre de l'œuvre, la technique de l'œuvre, les dimensions et une estimation. Estimation véritablement fausse, puisqu'elle est 7 à 8 fois inférieure au prix de 1939. Mais
pourquoi
nous avons des indications. Oui, c'est d'abord le directeur de l'École des Beaux-Arts va dresser des estimations très basses selon le vœu allemand. Et d'autre part, il y a, et c'est assez long à expliquer, une histoire de l'histoire du goût qui va véritablement changer, puisque cette histoire du goût sera passée au prisme de l'esthétique du Troisième Reich, qui va honnir les œuvres de facture moderne, des avant-gardes, considérées comme entartete Kunst, comme art dégénéré, lors d'une démonstration d'une exposition en juillet 1937, et puis des œuvres de facture tout à fait classiques qui, elles, auront une valeur et un cours beaucoup plus important qu'elles n'avaient en 1939.
Donc c'est vraiment... Oui. Donc cette estimation, elle a été faite après...
Elle a été faite en 1941, elle a été faite en 1941 dès la perquisition du coffre-fort. Rien n'arrête la Gestapo. Il y a des dénonciations de confrères également. Sur dénonciation, on sait que des galéristes, des marchands de tableaux ont été envoyés dans les camps allemands pour récupérer les œuvres d'art des confrères. C'est une période sombre, oui, effectivement.
En l'occurrence, vous l'avez dit, hein, cette galerie donc située 21 rue de la Boétie, elle a pignon sur rue, c'est vraiment une galerie extrêmement reconnue. On peut imaginer que les œuvres effectivement qui étaient présentes ont été tenues à jour de manière très très minutieuse. Après la guerre, Paul Rosenberg va tout faire pour récupérer ses œuvres, et pourtant. Aujourd'hui encore, donc 50 ans, un peu plus après sa mort, le travail est loin d'être terminé.
Oui, tout à fait. La galerie Paul Rosenberg est assez exceptionnelle parce qu'elle est excessivement documentée. Il y a une méthode Rosenberg qui est très bien présentée dans l'exposition 21 rue La Boétie au musée Mayol. Et la collection et le stock sont vraiment tout à fait connus. Le pillage est d'une grande ampleur, on le sait uniquement sur le coffre de Libourne, mais il y a d'autres indications. Paul Rosenberg a eu la possibilité de quitter la France via le Portugal dès le 17 juin 1940, je vous l'ai dit, et il arrive aux États-Unis, à New York, où il va monter une galerie d'art sur la 57e rue. Là, il fait un commerce, il remonte son affaire, son commerce est florissant, mais dès l'immédiate après-guerre, il a la volonté de tenter de recouvrer une partie de sa collection spoliée. Et il est aidé par ses deux frères, à la fois Léonce Rosenberg, qui est resté à Paris, et Edmond Rosenberg, dont j'ai moins d'informations, vont l'aider à retrouver une partie des œuvres. Paul Rosenberg ira également en Suisse dès septembre 1945, car il sait que la Suisse est un lieu de coulage où les œuvres ont pu être écoulées sur le marché de l'art à travers des maisons de vente aux enchères. Ça, j'en ai vu la trace, nous en avons des indications. Et puis, il décède à l'aube des années 50, des années 60, il décède en 59, et il n'aura pas eu la possibilité de retrouver toutes les œuvres. Aujourd'hui, actuellement, la 67 œuvres de la collection de Paul Rosenberg sont encore en déshérence dans la collection. Ceci dit, il y a eu deux œuvres très importantes qui ont été retrouvées tout à fait dernièrement. L'une d'elles a été retrouvée dans une fondation privée norvégienne au Eni Anstad Kunstsenter, proche de Oslo, un Matisse qui s'intitule « Femme au profil devant la cheminée » qui est présentée au musée Mayol. J'ai eu la possibilité de travailler avec le musée norvégien et de pouvoir, grâce à Philippe Dagen, à qui j'avais donné cette information et à qui nous avons travaillé, eh bien, participer à la récupération et la restitution de ses œuvres. Et puis, la deuxième œuvre était également de Matisse. Elle a été restituée en 2014. Il s'agissait d'une œuvre donc, de Matisse, je viens de le dire, qui s'appelait « Femme assise dans un fauteuil avec un éventail » et qui a été présentée dans les premières images lorsqu'on a découvert la collection Gurlitt à Schwangbing dans un appartement, un modeste appartement d'un fils d'un marchand d'Hitler qui s'appelait Hildebrandt Gurlitt et que les historiens d'art qui travaillent sur ces questions connaissaient.
En l'occurrence, vous le disiez, il y a cette exposition hein, actuellement donc, au musée Mayol. Vous pouvez nous en dire quelques mots ? C'est-à-dire que vous avez réussi à retrouver des œuvres qui vont être présentes, des œuvres originales qui sont présentes
alors,
là dans l'exposition ?
Très, 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 très modestement, j'ai participé, mes recherches ont participé au retour dans la collection originelle voilà, d'une œuvre qui s'appelle Profil bleu devant la cheminée. C'est à l'occasion de journée portes ouvertes à l'Institut national d'histoire de l'art où le thème fédérateur était la danse de Matisse. Et j'avais en tête une photo qui présentait... Hermann Göring, avec dans les mains le port d'Anvers de Jan Brueghel, un tableau de petite taille qui était échangé contre 4 tableaux de Matisse, spoliés à la collection de Paul Rosenberg, et notamment une odalisque au tambourin, donc, qui avait été mise à l'abri dans le coffre de Libourne. Donc, je me suis dit, je vais travailler sur ces œuvres de Matisse, un artiste que j'aime énormément, et je vais essayer de tirer les ficelles, de faire ce qu'on appelle des recherches de provenance pour voir où sont les œuvres. Et lorsque je me suis intéressée à l'odalisque au tambourin, que j'ai retrouvé dans un musée américain, je me suis aperçue que l'œuvre avait été restituée et qu'il n'y avait aucun problème. Par contre, il y avait deux œuvres qui posaient des problèmes, et notamment cette œuvre qui était dans un musée norvégien depuis les années 60, qui avait été même présentée en 2012 au CIMES de Beaubourg, alors que les recherches de provenance n'avaient pas été faites, et qui est retournée dans son pays, et pour ma part, un problème, puisque cette œuvre n'avait pas été restituée à la famille de Paul Rosenberg. Voilà. Donc, c'est en travaillant, en faisant des recherches de provenance. Ces recherches de provenance ont été l'objet et ont été confiées à Philippe Dagen, qui est professeur d'histoire de l'art et à la fois critique d'art dans un quotidien du soir et qui en a fait un article assez important. Cet article est parvenu aux oreilles de la directrice du musée norvégien qui a souhaité me rencontrer et avec qui nous avons travaillé par la suite dans les archives françaises pour essayer de documenter la traçabilité de cette œuvre. Et au bout de plus d'une année de travail, elle et son board ont décidé de restituer l'œuvre parce que l'éthique était convoquée.
Mais alors, c'est vrai que ça paraît très curieux. Si les œuvres donc, qui appartenaient à Paul Rosenberg étaient référencées, comment se fait-il ? J'imagine qu'il y a une base de données que ce musée ne sache pas qu'il s'agissait d'une œuvre qui avait été spoliée pendant la guerre. Europe, c'est encore possible.
C'est l'intérêt de cette question qui est véritablement dans un tournant historiographique, me semble-t-il, où on considère que... 75 ans après les faits, eh bien, tout aurait pu, surtout maintenant avec les méthodes et surtout les techniques qui sont à notre disposition, de bases de données, de possibilités d'obtenir des bases de données, d'obtenir des informations, de travailler en collaboration internationale. Eh bien, non, tout n'a pas été fait. Il y a encore beaucoup de travail à opérer. 67 œuvres en déshérence dans la collection de Paul Rosenberg. Vous voyez qu'il y a encore des travaux à faire. 17 œuvres dans la collection de Zach pour ce qui concerne ce coffre niçois. Mais là encore, on ne s'est pas encore assez penché sur ces questions et je pense que les générations à venir auront véritablement encore du travail sur ce sujet.
Est-ce que vous pouvez nous dire juste quelques mots sur cette exposition, sur ce qu'on peut trouver actuellement dans cette exposition ?
Oui, alors elle a été présentée à Liège, à la Beauverie, et je trouve que son format parisien est beaucoup plus agréable, beaucoup plus réussi. C'est vraiment un cocon, les murs sont peints en rouge Bourgogne, ce qui vraiment renvoie un peu à l'atmosphère de l'époque. Les œuvres sont des œuvres très importantes, sont présentées dans un contexte historique qui est remis véritablement dans le parcours muséographique. Et c'est surtout une exposition Beaux-Arts. Alors que j'avais travaillé, moi, sur une exposition tout à fait documentée et très historique, avec des documents qui sortaient des archives publiques et qui n'avaient absolument pas la même, c'est absolument pas possible de les confronter. La grande exposition au musée Mayol présente des œuvres d'art, nous donne à voir ce qu'était la galerie Rosenberg, une galerie qui a défendu les avant-gardes dans les années en 1939. Paul Rosenberg a sous contrat à la fois Matisse et à la fois Picasso, pour vous donner donc cette idée. Il a les deux maîtres de l'art contemporain sous contrat. C'est une des plus grandes galeries. Et il a également des œuvres qui viennent des impressionnistes, des œuvres plus classiques qui lui permettent de tenir le coup. Parce qu'il faut être tout à fait audacieux pour pouvoir placer les avant-gardes. Et il doit avoir des réserves. Si je compare la galerie de Léonce Rosenberg, l'effort moderne...
C'est le frère, hein, c'est ça?
Tout à fait, le frère de Paul Rosenberg, qui s'est consacré aux travaux cubistes. Eh bien... très vite, il n'aura pas la possibilité de... il va faire faillite parce qu'il n'aura pas la possibilité de vendre assez de cubistes dans ces périodes. Et donc, il n'aura pas la possibilité de poursuivre sa galerie au-delà des années 40. Alors que Paul Rosenberg, avec un sens très affiné des affaires, qui va mélanger les expositions de Matisse, de Picasso, avec des expositions beaucoup plus classiques, qui lui permettent de tenir le coup financièrement.
Est-ce que vous pouvez nous parler, Emmanuel, de ce qui se passait aussi à l'hôtel Drouot, de l'activité finalement du marché d'art? On a parlé beaucoup des galeries juives et de ce qui leur arrivait, mais justement l'autre versant, c'est-à-dire la manière dont certains ont profité de la situation.
Oui, alors ce pillage de ces galeries nous renvoie en miroir, comme vous le dites tout à fait parfaitement, vers l'hôtel Drouot, qui est un marché d'art florissant. Lors de l'année 1942, plus de 2 millions d'objets seront transférés et vendus à l'hôtel Drouot. C'est le plus grand marché de France, c'est le plus grand magasin de France. On trouve tout à l'hôtel Drouot, on trouve des beaux flacons, il faut bien abreuver, et je le dis avec une pointe de cynisme, le gai Paris. On trouve bien évidemment de la fourrure, de l'argenterie, des bijoux. Les familles juives, dans un premier temps, ont souhaité récupérer des liquidités pour essayer de fuir et de sauver leur vie. À partir du 17 juillet 1941, trois affiches seront apposées à l'entrée de l'hôtel Drouot, interdisant de manière absolue l'entrée des Juifs dans les salles des ventes. Et à côté, nous avons des ventes d'un genre tout à fait particulier, des ventes de biens israélites, dans lequel, effectivement, on voit des œuvres qui sont vendues à la requête d'un administrateur provisoire et qui viennent sur le marché de l'hôtel Drouot. Et je pense qu'à ce titre, on ne peut pas ignorer la provenance des œuvres que nous achetons lorsque nous sommes dans une vente de biens israélites.
C'est-à-dire la différence, c'est que ce sont forcément, à partir de ce moment-là, des biens spoliés.
Il y a des biens spoliés, c'est-à-dire que chaque vente est unique. Et c'est pour cela que nous avons à l'Institut National d'Histoire de l'Art, avec le soutien financier de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, numérisé 3000 catalogues de vente de l'hôtel Drouot de 1938 à 1950. Le cœur du sujet 1940 et 1945 sont numérisés, les catalogues de ces périodes sont numérisés et sont surtout mis en ligne sur le portail de la bibliothèque numérique. Donc c'est un instrument de recherche extraordinaire pour les historiens de l'art français, mais également j'ai beaucoup de confrères allemands qui travaillent et ça a été une vraie réussite. Et chaque vente est unique et chaque vente doit être analysée très finement pour essayer de faire la traçabilité des œuvres et savoir entre les mains de qui elle appartenait en 1939.
Dans l'ensemble, on a surtout quand même des ventes forcées ou des ventes spoliatrices. Non, pas
vraiment. Il faut véritablement, j'ai pu avoir des exemples, effectivement, tirer des exemples, mais il faut rester assez prudent et il faut analyser chaque vente véritablement. Il y a des ventes par décès, suite au décès. Il faut là encore, il y a différents cas qui peuvent être précisés, mais il est vrai que vous soulignez quelque chose qui peut être important, puisqu'on a au moins deux exemples de ventes forcées, à la fois la vente Jaffé qui est réalisée à Nice et la vente de Armand Isaac d'Orville, là aussi réalisé à Nice. Mais je préfère être excessivement prudente, juger sur pièce, en ayant les documents et en analysant, vente par vente.
Merci Emmanuel Polak. Je rappelle que le dernier numéro de la revue Archives Juives, que vous avez coordonné donc avec Yves Chèvre-Fils d'Ébiol, Juif et marché de l'art en contexte de guerre au XXe siècle, est paru avec le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Les auditeurs peuvent le commander à la bibliothèque de l'Alliance Israélite Universelle au 6 bis rue Michel-Ange dans le 16e à Paris. C'était Mémoire Vive. Vous pouvez retrouver l'émission sur le web radio-rcj.info ou Mémoire Vive au pluriel.net.